Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bon réveil à tous, ravi de vous retrouver dans la matinale de CNews, 6h56, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Sans plus tarder, l'éphéméride d'Alessandra Martinez, et puis ensuite ce sera la météo, je vous présenterai mes invités.
Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises, au design norvégien et au confort unique.
Chers amis, bonjour. Hier, nous avons commémoré la passion de Jésus et sa mort sur la croix. Demain, nous allons célébrer sa résurrection, le jour de Pâques. Aujourd'hui, en ce samedi saint, nous sommes dans une sorte d'entre-deux. C'est un moment de silence, de recueillement et de prière. Aujourd'hui, il n'y a aucune célébration, aucune vénération, aucun sacrement. L'Église nous apprend que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il est allé chercher tous les hommes qui sont morts auparavant et qu'il voulait sauver, y compris Adam. Jésus est vraiment venu pour acheter tous les hommes, de tous les temps et de tous les lieux. C'est sur ce grand mystère et sur cette grande espérance que nous sommes invités à méditer en ce samedi saint. Et je vous laisse avec cet extrait du psaume 41 qui sera lu cette nuit lors de la vigile pascale. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis, pour célébrer Pâques.
Détendez-vous, confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés Stressless.
Ils sont avec moi pour commenter toute l'actualité sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous annoncer Michel Thau. Bonjour Michel.
Bonjour.
Éditorialiste et fondateur du site Opinion Internationale. Et face à vous, bien sûr, l'excellent Guillaume Bigot qui nous accompagne comme toujours.
Bonjour Anthony, bonjour Marine, bonjour Michel et bonjour à tous.
Et j'annonce également la météo de Karine Durand qui est avec nous ce matin.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Alors le contraste est saisissant ce matin entre la lumière apportée par Karine Durand sur ce plateau et la journée pluvieuse et orageuse que vous nous annoncez, Karine.
Oui, et après toutes les précipitations qui sont déjà tombées ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien, plusieurs départements, deux départements sont placés en vigilance orange pour le risque de crue, avec des crues déjà importantes en cours du côté de la Corrèze ou encore de la Dordogne. Grande prudence. En ce qui concerne l'état du ciel, c'est vraiment très agité aujourd'hui. Ça va être très agité tout au long du week-end de toute manière. Hein, avec cette dépression qui arrive sur la France et de fortes pluies qui se mettent en place sur l'Île-de-France, de plus en plus vers le Massif central, vers l'Ardèche en particulier, où les précipitations peuvent prendre une tournure vraiment orageuse. Vous voyez que le vent est très présent, ce vent très présent sur le sud, sur le massif central, et il y a également un fort risque d'avalanche pour les Alpes. En ce qui concerne la suite, l'après-midi, eh bien, pas du tout d'amélioration. Hein. Ce mauvais temps se décale de plus en plus vers l'est, où il s'intensifie avec de la neige à partir de 1900 mètres sur les Alpes, avec de fortes pluies qui descendent jusque sur la Provence-Alpes, Côte d'Azur, et toujours un vent violent et un vent sensible sur l'ensemble du pays. Attention à quelques orages qui peuvent éclater également sur la pointe bretonne ou encore sur le Pays basque. Les températures ce matin sont assez classiques pour la saison, mais le ressenti est vraiment mauvais avec l'humidité et le vent. 8 degrés à Paris, 6 degrés seulement pour le Pays basque et 5 degrés pour Strasbourg. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont assez normales également, avec 14 degrés prévus à Paris, 12 degrés en remontant vers Lille, 16 à Nancy, un maximum de 19 pour Biarritz, pour Perpignan, pour Ajaccio ou encore pour Bastia.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Et encore un bon réveil à tous sur CNews. On va commencer avec cette psychose dans les établissements scolaires de France. Entre le plan Vigipirate relevé à son plus haut niveau et les menaces répétées à l'encontre des établissements, les mesures de sécurité ont été renforcées un petit peu partout dans le pays. Portiques, fouilles de sacs, condamnation des portes. Illustration ce matin avec nos équipes en région dès le début de ce journal. On ira également dans le département du Var. Vous verrez les images choc du braquage d'une supérette. Le gérant est violemment frappé à coups de crosse par deux individus cagoulés. Ça se passe à Fayence, dans une petite commune en apparence paisible. Une commune qui, face à la progression de la délinquance, renforce aussi son dispositif de caméra vidéo. Nous serons en direct avec le gérant de cette supérette. Ce sera tout à l'heure à 8h. Nous relayons également le cri de colère ce matin de ces mères de famille niçoises. Elles habitent le quartier des Moulins, un marché de la drogue. Des coups de feu liés au trafic de stupéfiants étaient tirés en début de semaine, et ce, malgré la multiplication des opérations Place Net. On vous en parlait déjà le week-end dernier. Le reportage à suivre. Tout d'abord, ce mineur de 17 ans présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. Il avait été interpellé ce jeudi à Malakoff, en région parisienne, suspecté d'avoir envoyé des menaces à des collèges et des lycées via les fameux espaces numériques de travail des élèves. Au total, 150 établissements ont été ciblés dans 20 académies différentes. Des menaces qui ont provoqué, je le disais tout à l'heure, la psychose un petit peu partout dans le pays.
Et à tout cela vient s'ajouter le plan Vigipirate, rehaussé depuis lundi dernier. Il est désormais à son niveau maximal. Les établissements, déjà beaucoup plus vigilants depuis l'attentat d'Arras, ont encore renforcé leur sécurité. C'est ce qu'a pu constater notre équipe à Nantes et au Mans, le reportage de Mickaël Chailloux.
7h45, lycée Talensac de Nantes. Le contrôle aléatoire des sacs des 1200 élèves s'effectue chaque matin depuis l'attentat d'Arras. Seule nouveauté depuis une semaine, des accès ont été condamnés. Toute personne qui entre dans l'établissement passe devant un membre du personnel. Autre élément, le contrôle des espaces numériques de travail suite à l'envoi de mails menaçants.
Nous avons rappelé à chacun les règles en termes de cybersécurité, puisque ça aussi c'est une alerte que nous ne prenons pas à la légère.
Dans ce lycée public du Mans, même chose, on n'a jamais arrêté le contrôle aléatoire des sacs. Mais ce qui change, ce sont ces grilles installées depuis un mois sur l'esplanade du lycée.
Avant, on avait pignon sur rue, les élèves arrivaient directement dans le hall de l'établissement par la porte d'entrée. Et là, on a quand même maintenant un sas, je dirais, de protection. Pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrusion directe.
Avec le passage en Vigipirate urgence attentat annoncé par Gabriel Attal, les petits panneaux ont refait leur apparition dans le lycée. Faut-il en faire plus ? Les responsables d'établissement s'interrogent.
On est aussi des êtres humains et on a tous nos missions. Donc on fait au mieux, mais on n'est pas non plus ni des gendarmes ni des policiers.
En faire plus peut quelquefois avoir entraîné chez nos jeunes d'autant plus un sentiment anxiogène.
Ces responsables d'établissement, d'abord éducateurs, se questionnent sur l'impact à terme de ce contexte sécuritaire sur cette génération de jeunes lycéens.
Alors évidemment, on ne peut pas transiger sur la sécurité de nos enfants, et c'est bien normal, mais c'est quand même triste et accablant de voir à quel point on est obligé de renforcer la sécurité dans ces établissements, de bunkériser, j'ai envie de dire, nos établissements avec des portiques, avec des fouilles. C'est presque un aéroport désormais, quoi.
Oui, mais justement, les établissements scolaires qui sont des sanctuaires de la République deviennent des sanctuaires en termes de protection. Et évidemment, il faut le faire puisqu'il y a menace sur effectivement la vie scolaire quand même. Pas oublier deux enseignants qui ont été sauvagement assassinés, des faits d'insécurité permanente qui augmentent. Donc effectivement, il faut protéger nos élèves, il faut protéger les professeurs, et il faut y mettre les moyens, moyens de vidéosurveillance, moyens technologiques, moyens de présence humaine. La ministre de l'Éducation nationale a annoncé la création de forces mobiles scolaires. C'est un peu ce que moi j'appelle la CRS 8 des établissements scolaires. Elle sera largement insuffisante parce qu'il y a des centaines d'établissements scolaires qu'il faut sécuriser. Certains sont plus prioritaires que d'autres, mais c'est une priorité nationale dans l'intérêt de nos enfants et de la sérénité des enseignants.
Guillaume Bigot.
Il y a deux dimensions dans cette menace. Il y a une dimension matérielle et il y a une dimension, disons, sinon spirituelle, du moins psychologique, morale. Sur la dimension matérielle, on n'en fait jamais assez suffisamment en matière de sécurité. Il y a déjà eu les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Il y a, il faut le rappeler, bien d'autres d'ailleurs, intrusions, menaces aujourd'hui dans les établissements scolaires et il est fondamental de protéger nos enfants. On le sait parce que c'est aussi une cible physique de choix. Il y a déjà eu des projets d'attentats ciblant des établissements scolaires. Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre que dans la logique des terroristes islamiques, l'idée c'est de créer quelque chose de tellement insupportable. Et quoi de plus insupportable que de s'en prendre à nos enfants et de faire couler le sang de nos enfants, qu'ensuite ça déclencherait des réactions en chaîne, la guerre civile, etc. C'est ça qu'ils veulent en fait. Donc on sait que ce sont des cibles, ça c'est très clair. Donc on n'en fait jamais assez et il faut absolument matériellement protéger les établissements, sans compter, je répète, d'autres types d'intrusions possibles. Après il y a la dimension, disons, plus morale, plus psychologique, plus politique. Et là, on sort d'une séquence où on sait qu'il y avait déjà des menaces importantes. Il y a eu l'attaque de Moscou. Il y a eu des envois déjà sur les messageries éducatives des enfants de vidéos. Et on s'aperçoit que dans la même séquence, si vous voulez, qu'un chef d'établissement qui était à quelques mois de sa retraite va être mis pour des raisons de convenance personnelle à la retraite. Cet homme a servi l'éducation nationale toute sa vie. Il a été notamment en Seine-Saint-Denis, je pense, avec un public assez difficile. Il a fait tout ce qu'il a pu. Et je pense qu'il a vraiment, c'est quelqu'un d'irréprochable. Et pour le remercier, sans faire de mauvais jeu de mots, on lui dit, bah écoute, tu sais quoi, pour des raisons, on ne peut pas assurer ta sécurité. Capitulation déjà matérielle et physique de la République. Mais en plus, on va déguiser ça en raison de convenances personnelles. C'est évidemment abject. Alors maintenant, on nous annonce quoi? On nous annonce qu'il va y avoir des forces mobiles scolaires. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des équipes laïcité qui vont venir dans les... C'est exactement ce qui s'était passé avant la mort de Samuel Paty. Donc je pense qu'ils n'ont, en fait, éducation nationale. Oui, je vous en prie.
On va en parler.
Ils n'ont rien appris, rien compris, en fait, ce qui s'est passé.
Cette colère au sein de l'éducation nationale. Les personnels de direction font face à un défi quotidien, celui de repousser les assauts contre la laïcité, d'où qu'ils viennent. Voilà ce qu'explique le syndicat SNPDEN. Frérisme, islamisme, extrémisme religieux, contestations de toutes sortes. Notre rôle est celui d'une digue résistant aux attaques fortes et déstabilisatrices. Voilà ce que disait ce syndicat. Marine.
Oui, le syndicat a donné hier sa première conférence de presse depuis le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il a quitté précipitamment ses fonctions en raison des menaces qui pesaient sur lui. Il ne s'agit donc pas d'un simple départ pour convenance personnelle, comme évoqué par le rectorat Maxime Leguet et Laurent Sélarier.
C'était une prise de parole attendue. Devant une foule de journalistes, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale a souhaité donner des nouvelles sur l'état de santé du proviseur du lycée Maurice Ravel.
Il est entouré, ses adjoints continuent de garder le contact avec lui. C'est sûr que c'est quelque chose qui ébranle de toute façon. Hein, donc il faut quelques temps pour qu'il y ait une résilience. Imaginez ce qui se passe si vous êtes menacé de mort. Ben, voilà, ça vous donne une petite idée de la situation dans laquelle il est.
Si le syndicat salue la réaction et le soutien apporté par le gouvernement aux proviseurs et à la communauté éducative, il déplore toutefois une maladresse de communication du rectorat qui, dans un premier courrier, évoquait un simple départ à la retraite anticipée.
Ce courrier qui fait effectivement apparaître la notion de convenance personnelle, c'est dommage. Je pense que c'est une erreur de communication. Pourquoi ne pas appeler un chat? Le collègue est parti pour des questions de sécurité. Il fallait l'écrire comme ça, tout simplement.
De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé la création d'une force mobile scolaire nationale qui pourra être envoyée dans les établissements en cas de problème de sécurité.
Ça a été terrible, cette expression du rectorat, le départ pour convenance personnelle. Vous l'avez souligné, Guillaume Bigot. Michel Taupe, c'est quand même hallucinant d'entendre ça de la part du rectorat quand il s'agit évidemment de questions de sécurité.
C'est d'une grande lâcherie parce que, évidemment, les raisons n'étaient pas des convenances personnelles, c'était la menace qu'a subie le proviseur et qu'il n'a malheureusement pas supportée. Alors, le Premier ministre a annoncé que l'État porterait plainte pour dénonciation calomnieuse contre une des élèves qui s'en est prise au proviseur. C'est très bien. Le syndicat des directeurs d'établissement a pris la parole. Mais c'est l'ensemble de la communauté éducative qui devrait réagir. Moi, j'attends la réaction des syndicats enseignants, des syndicats de parents d'élèves qui, tous ensemble, devraient se mettre derrière ce proviseur. Parce que c'est une véritable démission, c'est une soumission qu'on est en train de nous imposer dans les établissements publics scolaires et à laquelle il faut réagir tous collectivement. La parole du Premier ministre, c'est très bien. Mais c'est toute la communauté éducative qui doit réagir collectivement, sinon on n'y arrivera pas.
Je vous propose d'écouter une proviseure à cette même conférence de presse qui explique... Alors, il y a les menaces, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les difficultés à enseigner des matières comme l'histoire, comme les sciences naturelles notamment, face à des élèves qui ne veulent pas entendre ces enseignements pour des raisons religieuses. Écoutez.
C'est pas normal qu'un élève se questionne et conteste. C'est des choses qui sont plutôt courantes et ça fait aussi partie de la relation pédagogique. Ce qui est compliqué, c'est quand un élève refuse un fait scientifique ou un fait historique au nom d'une croyance religieuse et que malgré les arguments développés par l'enseignant, eh bien il persiste dans ce refus. C'est là que ça devient compliqué parce que ça veut dire que la doxa, la croyance, la doctrine, l'emporte sur le savoir et la connaissance.
Oui, ces professeurs qui nous disent aujourd'hui, on n'a plus la légitimité vis-à-vis des élèves pour leur enseigner quoi que ce soit, puisque la doxa, la croyance religieuse est plus forte.
Oui, je ne veux pas, encore une fois, je pense qu'ils font un travail très, 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 très compliqué et ils mettent maintenant, pour certains d'entre eux, leur vie en danger, on le voit. Donc il n'est pas question de les critiquer, mais simplement sur le plan des programmes. C'est-à-dire que tant qu'on on enseigne une république sans France, tant qu'on enseigne une laïcité, disons, de bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde, on n'explique pas, en fait, tout simplement, ce qu'est la laïcité à la française.
Il faut assumer une laïcité forte, ferme.
Mais c'est pas tellement forte et ferme, c'est déjà ce que c'est. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas le modèle Benetton ou le modèle américain, le modèle mondialisation. C'est venez comme vous point, êtes, voilà. Tout ça va bien se passer, c'est le vivre ensemble. Non, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, ça vient de notre histoire, c'est une sortie des guerres de religion très originale. La plupart des pays sont sortis des guerres de religion en disant si le prince est protestant, alors tous ceux qui habitent là sont protestants, les catholiques partent. Si le prince est catholique, inversement. C'est ça la sortie des guerres de religion. En France, Henri IV a dit « Paris vaut bien une messe ». Donc on peut être français tout en étant protestant en réalité. C'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a une sorte de religion civile en France, d'appartenance à une nation. Si vous faites de la laïcité sans la France, de la République sans la France, si vous n'appartenez pas à une communauté, surtout alors qu'il y a une offensive islamique et surtout alors que les enfants de l'immigration, par définition, sont entre deux eaux, eh bien évidemment, ça se passe mal, c'est inévitable.
On vous montre ce matin des images chocs, celles du braquage d'une supérette de la commune de Fayence dans le Var. Un braquage, mais aussi l'agression très violente du gérant du magasin, frappé par deux hommes à coups de crosse. Les faits, Marine, se sont déroulés ce mercredi.
Oui, les auteurs sont toujours en fuite avec le butin estimé à 1000 euros. Dans ce village d'un peu moins de 6000 personnes, c'est la stupéfaction. Les habitants s'inquiètent de plus en plus pour leur sécurité. Reportage de Franck Trivio, commenté par Adrien Spiteri.
Dylan est déjà de retour au travail dans cette supérette, mais quelques jours après les faits, il reste marqué. Mercredi soir, alors qu'il se trouve dans le magasin, deux hommes en cagoulé font irruption sur place armes à la main, prennent le contenu de la caisse, puis agressent violemment le gérant à coups de crosse.
On a eu très très peur et on pensait pas une seconde que ça se passerait à Fayence, quoi, parce que Fayence pour moi c'est calme, c'est une ville dynamique, il y a beaucoup de touristes. Je pensais que ça se passe sur Marseille, Nice, sur les grandes villes, quoi, pas dans un petit village, dans le canton, quoi.
Le butin est estimé à 1000 euros. Dans la commune, c'est la stupéfaction.
Il y a une montée de la violence qui devient déraisonnable.
Ça fait 30 ans que j'habite sur Fayence. Ben, je trouve que c'est très grave. Ça craint pour un petit village comme ça. Ben, ça fait peur, quoi.
Ce type de braquage est rare dans le village, mais selon le maire, les commerçants se sentent de moins en moins en sécurité. Il a décidé de réagir.
Nous avons, nous, développé un réseau de vidéosurveillance. Vous en voyez un modèle derrière, là. Et nous développons encore cette année une dizaine de caméras supplémentaires. J'embauche un policier municipal de plus au 1er mai, parce que la sécurité de la population est quelque chose de primordial pour un maire.
Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs du braquage.
Ce qu'on réalise à travers ce reportage et ces images d'une extrême violence, c'est le changement de physionomie de la délinquance aujourd'hui. Elle est à la fois plus violente envers les individus, pour un simple braquage, pour 1000 euros on peut être ultra violent. Et ensuite, le changement géographique de cette délinquance. C'est-à-dire qu'on a des grandes villes qui sont plutôt armées dans le sens où il y a un maillage policier qui est important dans les grandes villes, des vidéosurveillance qui est souvent un petit peu partout dans les rues, et ces petites communes qui, elles, ben voilà, ne sont pas équipées pour faire face à cette nouvelle forme de délinquance qui débarque.
Et des communes comme Fayence, 6000 habitants, vous le disiez, c'est le maillage de la société française. La France est faite de ces communes comme Fayence. Et ces communes n'échappent plus effectivement à la violence. En quelque sorte, il n'y a plus de territoire perdu de la République, dans le sens où les violences Personne ne peut y échapper. Et donc, il y a actuellement une réaction collective. Ce que dit le maire est très intéressant. Il réagit, il s'équipe au niveau technologique, il embauche un policier municipal supplémentaire. C'est l'ensemble de la société qui est en train de s'organiser pour qu'il y ait un continuum de sécurité qui, est certes, soit pris en charge par les professionnels, c'est-à-dire les policiers, mais également par l'ensemble de la société. C'est une nécessité absolue pour pouvoir répondre à cette violence qui n'arrête pas d'augmenter.
Guillaume Bigot.
Bah, vous savez, on balaye d'un revers de main la dimension, disons, d'inégalité sociale, d'injustice sociale. Dans une société donnée, c'est une loi sociologique, si vous augmentez non seulement les inégalités, mais le niveau de vie s'abaisse, s'affaisse, hein, vous allez avoir une montée de la délinquance, et notamment de ce type de prédation, les gens vont se servir, etc. Ça, c'est mécanique. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en dehors de ce phénomène-là, vous avez une violence, je dirais, qui existe de manière autonome. C'est-à-dire que les gens pourraient voler sans frapper. Ils volent et ils frappent. Et par ailleurs, ils frappent parfois sans voler. C'est ça qui est tout à fait inquiétant. Parce que là, il y a quand même une récession économique, la situation va mal. Le fait qu'il y ait une augmentation, par exemple, des vols, je ne dis pas que c'est bien, en aucun cas c'est bien. Mais c'est attendu, si vous voulez. Ce qui est beaucoup moins attendu, vous avez raison, c'est que ça se passe dans des endroits où il y avait un contrôle social important, des petites communautés qui se connaissaient, et personne ne volait finalement. Et surtout, que ça se passe avec violence gratuite.
Alors, autre situation catastrophique, c'est dans le quartier des Moulins à Nice. On va en parler dans un instant, juste après le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
Un adolescent de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il est soupçonné d'avoir participé à l'envoi de menaces contre des établissements scolaires. Le mineur est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Ce nouveau record de détenus dans les prisons françaises, plus de 70 000 personnes étaient incarcérées au mois de février. C'est 6,1% de plus par rapport à 2023. La densité carcérale globale s'établit désormais à 124,6%. Et puis la star planétaire Beyoncé a sorti son nouvel album Cowboy Carter. Cet album aux riches influences country est une forme de clin d'œil aux racines texanes de la star. Spotify a annoncé sur X que Cowboy Carter était déjà l'album le plus écouté en une journée pour l'année 2024.
Et on va évoquer cette situation à Nice, la colère des mères de famille dans le quartier des Moulins. Des coups de feu liés au trafic de stupéfiants ont encore été tirés en début de semaine. Deux enquêtes ont été ouvertes, une pour tentative d'homicide volontaire, l'autre pour groupement préparant des violences. Plusieurs personnes ont été interpellées.
La situation ne peut plus durer pour ces habitants. Certains envisagent même de quitter le quartier. Témoignage recueilli par Franck Trivio avec le récit d'Aminata Demphal.
Dans le quartier des Moulins à Nice, les enquêtes se poursuivent. Les habitants, eux, sont excédés par la situation qui se dégrade chaque jour. Nous avons parlé avec un groupe de mères de famille.
Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure et qu'on ne peut pas travailler tranquille et on ne peut pas vivre tranquille. Il y a des personnes qui ont peur de faire les choses du quotidien parce que peur d'être embêté ou peur d'être suivi ou autre, ou agressé simplement, ou peur de prendre une balle perdue aussi.
Certaines prévoient même un changement radical pour échapper à cette insécurité qui semble sans fin.
On en a ras-le-bol. Moi, je compte partir du... même quitter Nice même. Parce qu'il y en a vraiment marre.
D'autres ne croient plus en l'avenir de ce quartier qu'elles pensent laisser pour compte.
Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections.
Pour l'heure, les premières investigations ont conduit à l'interpellation et au placement en garde à vue de 4 personnes.
Mais très peu.
Et puis enfin, un week-end de Pâques sous haute tension pour les forces de l'ordre. Gérald Darmanin a demandé une présence physique des policiers et gendarmes devant chaque église et chaque temple, tout particulièrement lors des offices religieux.
Oui, c'est la conséquence du renforcement du plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. Urgence attentat, des équipes CRS étaient déjà présentes hier pour le vendredi saint devant les églises à Paris. Illustration dans le 18e arrondissement de la capitale avec Fabrice Elsner, avec le récit d'Adrien Fontenot.
Cette année, à l'occasion des célébrations de Pâques, policiers, gendarmes et même militaires sentinelles lourdement armés sont postés aux abords des églises ou lors des cérémonies. Une présence inhabituelle, mais qui rassure.
Je trouve que c'est dommage, mais bon, je suis contente quand même qu'ils soient là.
Dans un monde idéal, j'aimerais faire une procession, comment dirais-je, sans être encadrée d'hommes qui assurent la sécurité.
Voir des armes, c'est pas rassurant, mais j'ai l'impression qu'on vit un peu avec aujourd'hui.
Sur ordre de Gérald Darmanin, les forces de l'ordre doivent être en lien avec les curés des paroisses. Leur mission, estimer le nombre de fidèles présents et adapter leurs dispositifs, des procédures et un impact direct sur l'activité religieuse.
Bien sûr qu'on aimerait pouvoir librement, sans problème de sécurité, entrer et sortir des lieux de culte. Ici, nous avions presque 1500 personnes hier soir pour la messe. Les policiers étaient simplement présents discrètement à la sortie. Oui, malheureusement, il faut cette présence pour prévenir si possible. Mais surtout, le premier bénéfice, c'est que les personnes qui viennent dans l'église soient tranquilles, en paix.
En paix et en sécurité. Un week-end pascal qui intervient quelques jours après le déclenchement de l'alerte urgence attentat.
Et là, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, c'est un petit peu comme les écoles au début de ce journal. Ce qui est l'exception devient la norme. On est obligé aujourd'hui de renforcer la surveillance lors d'offices religieux, lors de fêtes religieuses chrétiennes en France, parce que les églises, les lieux de culte sont menacés.
C'est ce que, effectivement, je disais tout à l'heure, tous les sanctuaires de la République sont aujourd'hui menacés, doivent être protégés. Et en plus, j'aimerais rajouter en ce week-end de pascal, qui est évidemment la grande fête pour les chrétiens dans le monde, c'est que beaucoup de chrétiens sont pourchassés, sont assassinés, sont interdits aussi d'exercer leur culte dans de nombreux pays dans le monde. Et donc évidemment, il y a aussi pour ceux qui auraient des velléités d'attentats terroristes, week-end pascal peut être une cible malheureusement. Et donc effectivement, vigilance et protection.
Que vous inspirent ces images de forces de l'ordre disposées devant les églises et les temples de France ?
Beaucoup de tristesse. Dans les années 90, j'ai fait des séjours assez longs en Égypte. Et en Égypte, les chrétiens coptes, qui sont une minorité, une forte minorité néanmoins, étaient protégés, lourdement protégés par des hommes en armes, par la police, etc. Et ça m'avait toujours paru extrêmement choquant, puisque les Égyptiens coptes sont les premiers habitants de l'Égypte. Mais bon, on se disait, on est dans un pays à majorité musulmane. En plus, il y avait une poussée dans les années 90, il y a toujours d'ailleurs, une poussée de l'islam radical qui menaçait ces églises. Bon, c'était comme ça, en terre d'islam, disons. Et puis ensuite, j'ai vu dans mon propre pays, dans les années 2000, les synagogues de plus en plus protégées, là aussi, par des hommes en armes, par des barrières. Enfin, on rentrait plus, on sortait plus des synagogues comme avant. Enfin, c'était complètement incroyable. Et maintenant, on en est aux églises, voilà, et aux écoles.
Thomas Leroy qui a lancé la musique pour nous dire attention, attention, c'est la pub. On marque une courte pause, on revient dans un instant sur CNews. La matinale week-end se poursuit malgré des sujets évidemment sérieux. On essaye d'être
bien sûr
un peu agréable pour nos téléspectateurs. On va revenir tout à l'heure sur un fléau qui touche les habitants du 18e arrondissement de la capitale, c'est le fléau du crack. On en parle très souvent sur notre antenne. Là, ils viennent d'apprendre, à seulement quelques jours de son ouverture, l'ouverture d'un centre de consommation de drogue, une salle de shoot, une salle de consommation à moindre risque. C'est comme ça qu'on appelle ces centres, et ils viennent de l'apprendre, ça va ouvrir au pied d'un immeuble d'habitation à seulement quelques mètres d'une école début avril. Ils l'ont appris, tenez-vous bien, le 15 mars dernier. Ils ont été mis devant le fait accompli. On a été les suivre lors d'un reportage. C'est à suivre juste après la pause. Toujours ravi de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews, encore ensemble jusqu'à 9h, bien sûr avec Marine Sabourin, avec Michel Taube aussi pour commenter l'actualité, et Guillaume Bigot. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, on commencera avec ce reportage effarant des familles du 18e arrondissement de Paris prévenues de l'ouverture d'une salle de shoot juste en bas de chez eux, seulement quelques jours avant sa mise en service. Une salle qui est aussi tout près d'une école. Cela paraît impensable d'imposer cela aux riverains sans concertation. C'est pourtant ce qu'a fait la mairie de Paris. Ces riverains sont en colère. Vous entendrez leur désarroi dès le début de ce journal. Ce samedi qui marque justement les 10 ans d'Anne Hidalgo à la tête de la capitale. Alors qu'en retiennent les Parisiens ? Nous sommes allés leur poser la question. Et la question, je la poserai également à mes invités sur ce plateau. Nous irons enfin à Marseille où un détenu incarcéré à la prison des Baumettes s'est évadé de l'établissement pénitentiaire. Il était sous le régime de la semi-liberté, un détenu de nationalité étrangère sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Aurait-il dû être dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion plutôt que dans nos prisons déjà surpeuplées ? C'est ce que pensent en tout cas les syndicats de surveillants pénitentiaires qui n'en peuvent plus. L'un d'entre eux nous répond ce matin. Encore et toujours le fléau du crack à Paris et ses décisions prises par la mairie lourdes de conséquences pour lesquelles les habitants sont mis devant le fait accompli, littéralement. C'est quelque chose qui nous a étonnés, interpellés évidemment sur CNews dans le 18e arrondissement.
Des familles sont très en colère cette semaine. Elles ont appris qu'une salle de shoot allait ouvrir près de chez eux, à quelques mètres seulement d'une école et au-dessus d'habitation, en dessous d'habitation.
Ses parents n'ont jamais été concertés pour le projet. Des dizaines de riverains se sont mobilisés cette semaine pour s'y opposer. Et vous allez le voir, l'émotion de certains parents est très forte. Olivier Gangloff et Adrien Spiteri se sont rendus sur place. Regardez.
Crackland Welcome, ou encore Protéger nos enfants. Ces banderoles, réalisées par les habitants du quartier de cet immeuble de la rue Doudoville à Paris, flottent au-dessus de ce local. Derrière cette grille, un centre d'accueil pour toxicomanes ouvrira prochainement ses portes. Certains riverains ont décidé de se mobiliser pour s'opposer au projet.
On considère que c'est quasiment une prise d'otage. Ma fille, elle rentre tous les soirs à l'heure où ils vont fermer la grille, 18h, et que j'ai pas envie que ma fille elle rentre devant des toxicomanes potentiellement en manque.
Ils reprochent notamment à la mairie et à l'association Aurore, à l'origine de l'ouverture de ce centre, le manque de transparence et de dialogue.
Tout nous inquiète, la façon dont on a été informé à 10 jours de l'ouverture, alors même que les travaux duraient depuis un an et demi, sans aucune concertation préalable.
À seulement quelques mètres de là, se trouve une école élémentaire, un collège et une crèche. Autre problème, des vitres de ce local donnent sur la cour de l'immeuble. Gaëlle vit ici avec ses enfants. En pleine interview, elle ne peut retenir ses larmes.
Est-ce qu'ils ont visité ce lieu ? Ils ne l'ont pas visité. Regardez-moi, c'est pas sécurisé pour des gens avec des enfants. Je crains que le soir, quand je rentre, je suis désolée, ça me donne envie de pleurer, de ne pas pouvoir rentrer chez moi sans avoir peur.
Présent ce jour-là, l'adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris, en difficulté face à certains habitants, a refusé de s'exprimer à notre micro.
C'est bien commode hein, de ne pas vouloir répondre à CNews à ce moment-là, en déclarant qu'on ne répond pas à cette chaîne. Évidemment, il est en mauvaise posture, ce maire d'arrondissement. C'est quand même l'adjoint au maire de cet arrondissement. Puis c'est quand même difficile d'expliquer aux habitants 15 jours avant qu'une salle de shoot ouvre au pied de leur immeuble. Une salle qui était en travaux, en plus, depuis...
Il n'a pas répondu parce qu'il est pour le pluralisme, c'est ça ?
Certainement, ouais, sans doute.
Est-ce qu'il faut traduire avec ces gens ? Comme ils sont totalitaires, il faut traduire leur langage.
Voilà, alors déjà, la lâcheté de l'équipe municipale qui n'a pas envie de répondre à CNews pour une raison qui est évidemment bien commode pour eux. Et puis cette situation complètement effarante pour les habitants mis devant le pied du mur.
Non, mais il ne répond pas parce qu'il n'a pas d'argument.
Rien à dire, oui.
Il n'a pas d'argument. Ils ont voulu le faire dans le dos des habitants, mais ils ne se rendent pas compte que, heureusement, nos concitoyens sont de plus en plus vigilants et réagissent et ne se laissent pas faire. Il ne faut pas que cette salle de shoot ouvre dans cet immeuble. C'est ça qu'il faut. Et il faut s'en donner les moyens. Et j'espère que, grâce à votre reportage, cette affaire devient une affaire non pas locale, c'est pas une affaire que parisienne, c'est une affaire, j'ai envie de dire, qui est nationale. Parce qu'on n'installe pas des salles de shoot pour des personnes qui sont malades, qui sont dangereuses, parce que étant dépendantes, elles peuvent avoir des actes violents dans un quartier d'habitation à très forte densité urbaine. Ça n'est pas possible. Oui, il y a des salles de shoot, mais dans des lieux adaptés, dans des espaces hospitaliers, dans des friches urbaines où on peut soigner des personnes à l'abri, effectivement, des enfants et de personnes fragiles. Donc non, cette salle de shoot ne peut pas ouvrir et il faut que ça devienne, à mon avis, un enjeu important. Encore une fois, c'est pas un enjeu local et je trouve ça très intéressant d'en parler ici parce que c'est un sujet, c'est un vrai enjeu de sécurité collective qui se joue là.
Vous avez vu les larmes de cette mère, ça prend aux tripes. On peut le comprendre, l'inquiétude qu'elle a. Je pense à tout un tas d'autres problématiques aussi au-delà de la sécurité. C'est tout bête, mais le prix des appartements à Paris qui dégringole dans ce genre de situation. Les commerçants qui craignent aussi de voir leur chiffre d'affaires baisser si la sécurité dans le quartier est dégradée. Il y a plein de conséquences aussi derrière.
Bon, d'abord,
La priorité, évidemment, la sécurité des enfants, ça c'est une évidence.
Vous savez, la mairie de gauche de Paris, de gauche, je souligne, hein, au Stabilo, a chassé tous les gens modestes de Paris. Donc déjà, c'est la première chose. Comme ça, c'est une zone sans pauvres. Donc c'est plus important, c'est mieux évidemment pour la gauche qui n'est pas de pauvres. Deuxièmement, c'est un peu d'ironie bien sûr. Deuxièmement, c'est des quartiers où il reste encore un peu de mixité sociale. Il n'y a plus beaucoup à Paris, ceux-là en font partie. Donc oui, vous avez raison, les appartements sont quand même chers, mais les gens qui habitent ne sont pas contre le fait... sont pas contre la mixité sociale, pas du tout. Par contre, ils sont évidemment contre l'insécurité, en particulier celle qui peut toucher leurs enfants. Donc je conçois bien qu'il y a un peu un dilemme
qu'il faut parfois éviter des comportements à risque, des gens qui prennent des stupéfiants dans la rue. C'est arrivé, vous savez, avec la question du sida notamment, ou des transmissions de maladies avec les aiguilles. C'est comme ça qu'on a installé au début des salles de shoot. Bon, mais on n'en est plus tout à fait là. Donc je comprends, et que si on réprime les gens qui consomment en même temps qu'on essaye de leur venir en aide, ils ne vont pas venir pour trouver des solutions sanitaires. Donc je comprends bien qu'il y ait une tension là, mais pas dans la rue, pas à côté des écoles, pas sur la voie publique. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant, parce qu'il faut rappeler que consommer des stupéfiants, c'est être dans l'illégalité. Donc on n'ouvre pas des salles comme ça pour pédophiles, on n'ouvre pas des salles de prostitution dans la rue, on n'ouvre pas des salles pour s'adonner à l'alcoolisme. Tout ça, c'est interdit par la loi. Donc déjà, c'est extrêmement choquant. Donc je comprends la nécessité de les soigner, parce que ce sont des gens qui sont addicts, comme on dit. Il faut les soigner, mais dans un cadre, disons, sécurisé, minimum.
Le problème, c'est que ce genre de situation, puisque la mairie a promis d'ouvrir plusieurs salles de shoot dans la capitale, c'est que ce genre de situation risque de se reproduire.
Oui, mais en même temps, dans Paris, encore une fois, vous
les
avez...
Les habitants non prévenus risquent de voir éclore une salle de
bien entendu, mais en même temps, dans Paris, vous avez de nombreux centres hospitaliers dans lesquels on peut aussi mettre des salles de shoot. Et encore une fois...
Et encore, ce n'est pas sans poser des problèmes de sécurité.
Oui,
hein,
mais c'est déjà moins poser de problèmes qu'en mettant dans un immeuble d'habitation avec des enfants, une école juste à côté. Il y a aussi des friches urbaines à Paris et proche banlieue. Donc non, ça n'est vraiment pas le lieu de le faire. Mais encore une fois, cette salle de shoot ne doit pas ouvrir.
Mais c'est pas dans un esprit de cacher cet toxicomane qu'on ne veut pas voir. C'est pas le fait de les cacher, etc. C'est le fait de sécuriser les choses, parce qu'il y a besoin de sécuriser.
C'est dans ce contexte qu'Anne Hidalgo fête ses 10 ans à la tête de la mairie de Paris aujourd'hui. De la piétonnisation de la capitale à la saleté des rues, en passant par son voyage en Polynésie. Les polémiques ont marqué ses mandats, Marine.
Oui, alors quel bilan les Parisiens tirent-ils après une décennie pour la maire de Paris? Charles Baget est allé vous poser la question. Vos réponses sont commentées par Juliette Sadat.
Anne Hidalgo, 10 ans à la tête de Paris, c'est déjà quelques 500 km de pistes cyclables aménagées dans la capitale.
De son action, les pistes cyclables, très bien. Je suis cycliste et je trouve que c'est bien, c'est une mobilité agréable.
Les vélos, voilà, quelque chose de positif.
En novembre dernier, elle reçoit le prix des visionnaires du développement urbain. Mais tous ces aménagements sont loin de faire l'unanimité. Certains dénoncent des travaux sans fin.
En plus, j'ai les travaux devant chez moi, trottoir à gauche, trottoir à droite. En pleine pluie, on met les pieds dans le sable, carrément.
Pour circuler, c'est compliqué. Enfin, les trottinettes, les vélos, les piétons, les bus, ça devient vraiment un enfer.
Une élue qui divise, la maire de la capitale, on l'aime ou on ne l'aime pas.
Je retiens qu'elle suit la ligne de conduite de toutes les grandes capitales d'Europe et d'un peu partout. On gueule pareil dans toutes les grandes villes. Il faut aller avec son temps et elle va avec son temps.
Elle a promis des tas de choses. Et les résultats sont pas là.
Je pense qu'elle est un petit peu trop carriériste et pas assez tournée vers les gens.
Anne Hidalgo critiquée surtout pour les embouteillages et la propreté qui laisse à désirer. La maire de la capitale n'exclut rien en vue des municipales en 2026 pour un troisième mandat.
Alors qu'est-ce que vous retenez, vous, autour de la table?
Alors, trois choses. D'abord, je vais faire un peu de... Je vais essayer de penser contre moi-même. Je ne suis pas un grand fan de la maire de Paris, et pourtant je suis parisien depuis maintenant plusieurs décennies, mais je pense que les vélos, finalement, à l'arrivée, ça nous a fait beaucoup râler, mais ça fonctionne plutôt beaucoup mieux qu'avant. Il faut le reconnaître.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que
il y en a beaucoup, et dans des conditions de sécurité qui ne sont pas totalement toujours optimales, sur les grands axes, disons, pour faire simple, sur les grands axes, ça fonctionne. Il reste cette espèce de sport à risque. Le sport à risque, ça peut être par exemple le saut à l'élastique, mais ça peut être aussi de prendre des rues à contresens. La grande idée de Madame Hidalgo, c'est de permettre à tous les Parisiens, avec un vélo, de faire du sport à risque tous les jours dans Paris. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais sinon, force est de constater que c'est pas mal. La deuxième chose, c'est quand même, au prix d'un énorme foutoir, de beaucoup de saleté, d'une dégradation esthétique du cadre de la ville, ça c'est indéniable, et d'une explosion de la dette, il faut le dire aussi, de la ville. Et le troisième point, c'est quand même le marqueur de ce soi-disant socialisme, de ce soi-disant, parce qu'à mon avis, il n'y a plus rien de socialistes ni de gauche, c'est-à-dire vraiment la mère des CSP++++ qui veulent vivre dans un monde mondial et se débarrasser des beaufs, de la nation, du peuple, de la démocratie et vivre entre eux. D'ailleurs, elle avait ce projet de fusionner avec les grandes villes, Londres, etc., où il n'y a que des gens qui sont mondialisés et qui se donnent la main entre eux pour faire de la trottinette sans les beaufs, quoi. Enfin, sans les pauvres, en réalité.
Michel Taube.
Écoutez, deux choses. D'abord, elle est maire depuis 10 ans, mais enfin, elle a été aussi première maire adjointe de Bertrand Delanoë pendant 12 ans. Donc elle est à la tête de la ville de Paris depuis très longtemps.
C'est très juste.
Et premièrement, la deuxième chose, je retiens deux choses. Une chose positive, c'est la désignation de Paris pour les Jeux Olympiques. C'était quand
positif.
Même, elle y a contribué. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que c'est une très bonne chance
pour la
France. Mais ce que je retiens moi principalement, c'est son résultat à l'élection présidentielle dans la ville de Paris. À Paris, elle a fait 2,1% présidentielle. Elle est arrivée en 7e position de tous les candidats au premier tour. Et dans son arrondissement de prédilection, qui est le 15e arrondissement de Paris, elle a fait 1,9%. Donc voilà pour moi le bilan
ce qui est mieux qu'au
des
plan
Parisiens.
National, hein.
Ce qui est à peine mieux qu'au niveau parisien. Mais enfin, c'est quand
au
même
plan national,
très, très
au plan national,
score,
elle a explosé son score.
Un très très mauvais score. Et je pense que ça donne un peu un avant-goût de ce qui pourrait se passer dans 2 ans lors des élections municipales.
Allez, on avance avec ce chiffre record de détenus dans les prisons françaises. Il n'a jamais été aussi élevé. 76 766 personnes étaient incarcérées au mois de février. C'est 6,1% de plus par rapport à 2023.
Oui, la densité carcérale globale s'établit désormais à 124,6%. Une surpopulation qui dégrade une nouvelle fois les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. Écoutez Franck Rassel, secrétaire régional FO pénitentiaire.
Ça rend le métier compliqué parce que vous gérez de l'humain au quotidien. Donc déjà, une personne enfermée 23 heures sur 24 dans les maisons d'arrêt, si la personne n'a pas d'activité, c'est déjà dur à gérer. Alors quand vous doublez ce nombre de personnes dans une cellule, nos temps d'échange et les moyens de la réinsertion sont très très limités. Donc forcément, ça crée de la violence. Et la violence, nous sommes en première ligne. Donc du coup, nous, pour empêcher tout ça, mais nous sommes aussi les premiers à encaisser les coups s'il y a coup.
Et on revient ce matin sur cette info qui pose question. Un détenu de la prison des Baumettes à Marseille s'est évadé cette semaine, c'était mardi. Un détenu de nationalité étrangère sous le coup d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français. On en parle avec Cyril Huel-Ambin. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint pénitentiaire du syndicat pénitentiaire des surveillants en charge de la région PACA. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ma première question que je voulais vous poser, comment déjà a-t-il pu s'évader? Comment se sont déroulées les conditions, les faits de son évasion?
Alors, bonjour, merci pour l'invitation. L'évasion, en fait, sur un centre de semi-liberté, on n'est pas dans une prison, hein, il n'y a pas de mesure de sécurité, c'est plus un foyer qu'une prison, puisque de toute manière, s'ils veulent partir, ils n'ont qu'à pas rentrer de leur travail et puis ils s'évadent. Donc c'est ce qu'il faut comprendre réellement, parce que c'est des profils vraiment où on peut dire qu'il y a un régime d'une certaine confiance, où ils n'ont pas des grosses peines en temps normal, hein, ça arrive jamais, j'espère qu'il y ait des grosses peines dans ce genre de semi-liberté, mais ce qu'il faut dire, c'est vraiment c'est un régime de confiance. Ils ont un travail, ils vont travailler, ils vont se soigner, ils sortent le matin, ils rentrent le soir. C'est un foyer, en fait, hein. C'est pas une réelle prison, donc les évasions...
Et alors, j'ai lu, et vous allez peut-être me le confirmer ou pas, que la prison des Baumettes était de plus en plus confrontée à ce type d'évasion. C'est le cas ?
Alors, les Baumettes, comme beaucoup de centres de semi-liberté, hein, ça arrive de plus en plus... parce que dans les prisons il y a beaucoup de trafic, parce que dans les prisons il y a la vie de l'extérieur qui vous rattrape, parce qu'il est plus facile de faire du trafic à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est beaucoup plus aisé pour eux parce qu'on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les moyens coercitifs. Donc nous, on est complètement dépassés par ces événements-là. Les coûts économiques de l'administration pénitentiaire ne nous permettent pas non plus d'aller faire des fouilles intégrales comme on pouvait le faire avant. Donc c'est très compliqué. Donc en fait, ces détenus, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur peine et qu'ils sont un peu recherchés par des petits trafics internes, eh ben ils préfèrent s'évader peut-être un jour ou deux jours avant pour pas être rattrapés le jour J, quoi. Donc alors, ça arrive très souvent.
Autre élément qui pose question dans cette affaire, on a un détenu sous OQTF. Est-ce qu'il ne devrait pas
normalement être placé dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion et non pas dans une prison qui est déjà, on vient de voir les chiffres, record de détention en France, dans des prisons qui sont surpeuplées.
Alors oui, alors sur les chiffres d'ailleurs, pour alimenter un petit peu, parce qu'on parle de 124%, je vous ai entendu dire, mais la vérité est bien plus au-delà de ça, parce que 124%, c'est le taux d'occupation au niveau national.
Oui, c'est la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont beaucoup plus suroccupés exactement. Que d'autres, évidemment.
Vous prenez toutes les maisons d'arrêt, sont surpeuplées à bien plus que 124%. Hein. Ça peut atteindre les 150%, 160% sans problème. C'est ça qu'il faut vraiment entendre. Et quand on parle de 1 ou 2 détenus, dans 9 mètres carrés, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4 aussi. Hein. Ça s'est vu, ce ne sont pas des cas isolés. Hein. Donc ça, c'était la petite aparté.
Et la question des OQTF.
Alors, sur les OQTF, on va pas taper sur les magistrats, nous, parce que ce sont des décisions de magistrats, hein, à 90% du temps. Sur ce détenu qui s'est évadé, il devait être raccompagné en centre de rétention du côté de Sète, où il devait justement avoir des explications à donner, et il n'était pas encore réellement sur cette mesure-là. Elle était en suspens. Parce qu'il y a les OQTF, mais des fois, ils peuvent avoir une chance de s'expliquer, de montrer qu'ils ont un travail, de montrer qu'ils font les efforts d'intégration, ce qui peut annuler l'OQTF.
Mais est-ce que c'est fréquent d'avoir des individus sous OQTF en prison plutôt que dans un centre de rétention administrative ? Ça arrive souvent, ce genre de situation ?
Alors, souvent, je ne dirais pas que ça arrive souvent, mais je dirais que ça arrive trop. Voilà. On peut voir sur les 2 dernières années, sur les baumettes par exemple, on a recensé peut-être 5 à 10 OQTF.
Oui, donc il y a quand même quelque chose de je ne sais pas, la situation semble dysfonctionnelle, en tout cas ça ne devrait pas être le cas. On sait pourquoi ils sont placés dans des centres de rétention, dans des prisons plutôt que dans des centres de rétention administrative ?
Plus de place ?
Ah ben vous savez, ça c'est les décisions des magistrats, hein. Ils ont certainement des éléments que nous on n'a pas.
Oui, ils vous rendent pas forcément compte, effectivement. Ils ne vous rendent pas forcément compte. Je vous remercie Cyril Huel-Ambin, secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Vous êtes tout particulièrement en charge de la région PACA, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne ce matin et nous donner votre éclairage. Peut-être un mot rapidement autour de la table pour commenter cette situation, Guillaume Bigot.
Bah écoutez, en 2017, le président Macron avait promis la création de 15 000 places de prison. Et en 2022, il a repromis la création de 15 000 places de prison. On partait de 60 000 places. Il y a maintenant, je crois que vous avez dit, c'est tout à fait exact, 76 000 détenus. Il paraît que déjà 10 000 places ont été créées, mais elles semblent pas occupées pour l'instant. Ça a comme conséquence, c'est très simple, une explosion des agressions à l'intérieur des prisons qui visent d'abord le personnel surveillant mais aussi les autres détenus et une absence de contrôle absolument incroyable. Juste cette donnée qui me paraît invraisemblable, en 1998 il y avait 278 agressions contre les membres des personnels pénitentiaires. Donc 278, l'année dernière il y en a eu 4000. Voilà. Donc je pense que vous voyez l'explosion exponentielle de ce phénomène de la violence à l'intérieur des prisons.
Le jour où on fera le bilan des années Macron, je pense qu'un des points noirs aura été justement cette promesse qui n'a pas été tenue. Parce que la réalité, c'est que les 15 000 promis au départ n'ont pas été bâtis. Et là, maintenant, les syndicats de surveillants de prison et l'ensemble de la société en payent le prix tous les jours.
Mais on se rassurera avec la dette.
Je vous propose de finir sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Avec Marine Sabourin, on a pensé à vous parler du clap de fin de la carrière de Michel Sardou. Il a donné hier son dernier concert, tout dernier concert à Brest. Dernière étape d'une tournée d'adieu de 63 dates, je vais y arriver.
Oui, donc depuis ce matin, Michel Sardou est officiellement à la retraite. Michel Chaillou et Michel Dorian étaient à la sortie de son concert. Et vous allez le voir, son public ne semble pas encore prêt à dire adieu au chanteur. Regardez.
Une vingtaine de chansons pour 2 heures de spectacle. Après près de 50 dates à travers la France, Michel Sardou a donné ce vendredi à Brest le dernier concert de cette tournée devant près de 3800 spectateurs, tous comblés.
Super artiste, super soirée.
Voilà. Je crois qu'il était autant ému que nous.
Je vous sens très ému, Paola, quand vous nous parlez.
Bien sûr, j'avais mis heureusement du waterproof.
Vraiment très bien pour une dernière.
Une dernière qui officiellement a eu lieu le 17 mars à la Défense Arena de Nanterre. En décembre dernier, Michel Sardou avait été contraint de reporter le concert brestois pour des raisons de santé.
Quand j'étais petit garçon, je repassais berceau en chantant.
Mais cette fois, c'est bel et bien terminé. Ce vendredi a marqué la fin de cette tournée d'adieu.
Tout le public était vraiment très très heureux d'être là, de le voir pour la dernière fois. Croit-il ? Je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il avait vraiment dit « j'arrête ». Alors cette fois-ci, peut-être qu'il s'est dit « aïe aïe aïe, ne faisons pas l'erreur de dire « c'est définitivement fini », tu vois ». On dit jamais, jamais plus jamais.
Une tournée qui se termine donc avec une note d'espoir.
Il n'a pas dit adieu.
Il n'y a pas d'adieu quand on est artiste. Il continue à jouer dans nos cœurs, dans nos âmes. Et nous, on continue à chanter ses chansons.
Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté.
Un gros bisou à Michel. Hey, on t'aime, Michel.
On verra effectivement, c'est un véritable adieu.
Michel Sardou, bon, je le verrais bien chanter la Marseillaise à cérémonie d'ouverture.
Ah non, on ne va pas revenir sur le débat, ça y est. Pas encore, on ne met pas une pièce dans le jeu.
Michel Sardou, il ne dit pas.
C'est réglé, c'est réglé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est réglé, c'est fini. Allez, les sports pour finir.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Ligue 1 avec la victoire du LOSC face au RC Lens.
Oui, Lille s'est imposé 2-1 face à Lens. Les Lillois ont pu compter sur un grand Eden Zergrova, auteur d'un doublé d'abord en tout début de match, puis d'un nouveau but à l'heure de jeu sur une frappe repoussée par Brissamba. À la 78e minute, Eli Wahi réduit la marque pour les Lensois, mais le score du match ne bougera plus. Avec ce succès, les Lillois remontent provisoirement à la 3e place du classement, Lens est en 6e position.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
La bunkérisation de nos établissements scolaires, on en parle dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
La météo avec Karine. Ce samedi, Karine, on sort les parapluies ou alors on ne sort pas du tout?
Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, attention aux crues avec deux départements placés en vigilance orange par Météo France, la Corrèze et la Dordogne. Des crues importantes sont déjà en cours dans ce département en raison des fortes précipitations des derniers jours et des dernières semaines. Et ça ne va pas du tout s'améliorer. Regardez les cartes, justement, avec une nouvelle perturbation aujourd'hui qui traverse l'ensemble de la France, avec de fortes pluies en cours, notamment sur les régions centrales, sur l'Ardèche, des précipitations orageuses, du vent très puissant qui remonte, des pluies continues également en remontant vers l'Île-de-France. Et les Hauts-de-France et quelques brouillards à noter ce matin vers la Bretagne ou encore la région Grand Est. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces fortes pluies qui se décalent vers l'Est. Cette fois-ci, il y aura de la neige abondante aussi sur les Alpes du Sud, notamment à partir de 1900 mètres, avec un fort risque d'avalanche. Attention au vent qui va être très fort également en montagne, mais aussi sur les côtes du Sud-Est. Et on aura à nouveau un risque d'averse orageuse sur la Bretagne et sur le Sud-Ouest. Les températures ce matin sont globalement de saison. Il n'y a pas de gelée dans les grandes villes. Et au cours de l'après-midi, des valeurs tout à fait classique, mais avec un mauvais ressenti en raison de la pluie et du vent, bien sûr.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
La matinale week-end, excellent réveil à tous sur CNews, avec Marine Sabourin qui m'accompagne, avec Guillaume Bigot pour commenter l'actualité. Il nous a rejoint sur ce plateau, Éric Revel. Bonjour Éric.
Bonjour, pour commenter l'actualité aussi, non?
Pour, a priori, si vous le voulez bien.
Oui, oui.
Mais je vous en prie, lâchez-vous, c'est le moment. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. On ira tout d'abord dans le Var. Vous verrez les images choc de ce braquage d'une supérette. Le gérant est violemment frappé à coups de crosse par deux individus cagoulés. Ça se passe à Fayence.
dans une petite commune en apparence paisible. Et nous sommes en direct avec Philippe, le gérant de cette entreprise, dès le début de ce journal. La psychose dans les établissements scolaires également. Entre le plan Vigipirate relevé à son plus haut niveau et les menaces répétées à l'encontre des établissements, les mesures de sécurité ont été renforcées un petit peu partout dans le pays. Portiques, fouilles de sacs, condamnation des portes, illustration ce matin avec nos équipes en région. Ce sera dans un instant. Et puis plus de 4 Français sur 5 hostiles aux hausses d'impôts pour réduire le déficit. Bon, ça, on peut les comprendre. On va revenir sur le chiffre du déficit ce matin. 5,5%, symbole de notre incapacité à maîtriser nos dépenses publiques. Bruno Le Maire a appelé cette semaine à une prise de conscience collective. Sans doute devrait-il en parler au ministre de l'Économie. Quelles sont les pistes pour réduire nos dépenses? On en parle avec mes invités sur ce plateau. Mais tout d'abord, je vous le disais, ces images choquent, celles du braquage d'une supérette de la commune de Fayence, c'est dans le département du Var. Un braquage, mais aussi l'agression très violente du gérant du magasin, frappé par 2 hommes à coups de crosse. Les faits, Marine, se sont déroulés ce mercredi.
Oui, les auteurs sont toujours en fuite avec le butin estimé à 1000 euros. Dans ce village d'un peu moins de 6000 personnes, c'est la stupéfaction. Les habitants s'inquiètent de plus en plus pour leur sécurité. Reportage de Franck Trivio, commenté par Adrien Spiteri.
Dylan est déjà de retour au travail dans cette supérette, mais quelques jours après les faits, il reste marqué. Mercredi soir, alors qu'il se trouve dans le magasin, 2 hommes en cagoulé font irruption sur place, armes à la main, prennent le contenu de la caisse, puis agressent violemment le gérant à coups de crosse.
On a eu très très peur, et on pensait pas une seconde que ça se passerait à Fayence, quoi, parce que Fayence, pour moi, c'est calme, c'est une ville dynamique, il y a beaucoup de touristes. Je pensais que ça se passe sur Marseille, Nice, sur les grandes villes, quoi, pas dans un petit village dans le canton, quoi.
Le butin est estimé à 1000 euros. Dans la commune, c'est la stupéfaction.
Il y a une montée de la violence qui devient déraisonnable.
Ça fait 30 ans que j'habite sur Fayence. Ben, je trouve que c'est très grave. Ça craint pour un petit village comme ça. Ben, ça fait peur, quoi.
Ce type de braquage est rare dans le village, mais selon le maire, les commerçants se sentent de moins en moins en sécurité. Il a décidé de réagir.
Nous avons, nous, développé un réseau de vidéosurveillance. Vous en voyez un modèle derrière, là. Et nous développons encore cette année une dizaine de caméras supplémentaires. J'embauche un policier municipal de plus au 1er mai, parce que la sécurité de la population est quelque chose de primordial pour un maire.
Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs du braquage.
Et nous sommes avec Philippe, le gérant de cette supérette. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
J'imagine le choc que ça a dû être pour vous. Alors je vous remercie et puis je tiens quand même à vous rendre hommage. C'est courageux, hein, de témoigner à l'antenne, voilà, pour raconter ce qui s'est passé. Déjà une toute première question, puisque c'était mercredi. Vous, comment vous allez physiquement, mais aussi moralement?
Ben, ça va mieux que, c'est sûr, le jour où ça s'est passé, mais c'est vrai que ça c'est encore perturbant parce qu'on y repense, effectivement. Ça a été très violent, donc c'est vrai que c'est encore un peu dur à encaisser. Ouais.
Pour le moment, personne n'a été interpellé. Est-ce que vous avez eu des réticences à reprendre votre activité?
Oui et non. Enfin, c'est vrai que ben, je suis gérant et puis bon, je me dois de revenir sur les lieux quand même, mais c'est vrai qu'on y repense et ça a été très violent, surtout que voilà, on a été violemment frappé alors qu'on a laissé, on s'est pas opposé à ce qu'ils prennent l'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu injuste ce qui nous est arrivé. J'ai eu 4 points de suture, ça a été fait sous les yeux de mon beau-fils qui vient à peine de commencer le monde du travail. Donc c'est vrai que c'est un peu injuste. Alors j'espère qu'ils arriveront à attraper et que justice soit faite, quoi.
Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le moment et qu'est-ce que votre beau-fils, justement, qu'on voit dans le reportage, a lui aussi ressenti sur le moment?
Bah, c'est vrai qu'on a eu tous peur de qu'est-ce qui aurait pu se passer. Est-ce qu'ils auraient pu franchir le pas de tirer? Mon beau-fils a lui a pensé que même il m'avait enlevé parce que je suis instinctivement sorti pour que les laisser partir parce que j'étais du côté de leur passage de sortie, quoi. Mais c'est vrai qu'on pense de suite à est-ce qu'ils vont être plus violents que ça? Parce que c'est vrai que...
C'est la première fois que vous vivez un événement comme ça dans votre magasin?
Dans mon magasin, c'est la première fois effectivement que je vis ça et c'est très perturbant. Ouais.
Vous n'avez jamais subi d'autres braquages ou vols à main armée ici, bien heureusement. On entend que dans ce reportage, que les commerçants sont quand même inquiets dans votre commune à Fayence. C'est pourtant une commune de 6000 habitants, d'apparence paisible. On se dit, bon, chez vous, il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez des craintes particulières dans la ville ?
Ben, c'est vrai que là, entre les cambriolages qui augmentent constamment et ben là, maintenant, un braquage, on se demande est-ce que ça va continuer comme ça, alors qu'on était tranquille dans le village, quoi. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup le soutien de tous les commerçants et les gens du pays de Fayence. Le maire de Fayence aussi également a apporté notre soutien et le maire de Caillan. Donc, j'espère que tout ça, ben, ça va faire qu'on va réussir à trouver et faire mettre en place quelque chose pour que tout ça s'arrête, quoi.
Ben, on le souhaite en tout cas, et on souhaite surtout que les individus qui vous ont attaqué soient interpellés très, très rapidement et que vous puissiez retrouver une certaine quiétude dans votre activité. Merci Philippe d'avoir accepté de témoigner ce matin. Merci encore, je le dis encore une fois, de votre courage, parce que ce n'est pas toujours évident de témoigner comme ça à l'antenne, à visage découvert, et sachant que vos agresseurs n'ont pas encore été interpellés. Merci à vous de nous avoir parlé ce matin. Peut-être un tour de table sur ce qui s'est passé à Fayence. Ça illustre bien le changement de physionomie aujourd'hui de la délinquance qui se déplace de certains quartiers de centres urbains, de quartiers difficiles vers des zones plus rurales, habituellement plus tranquilles, de zones assez quadrillées par les caméras de vidéosurveillance et par la police, à des zones justement qui le sont moins, comme ces petites villes, comme ces petits villages.
Oui, ce que je retiens dans les mots de Philippe, c'est on est un petit village, je crois, de 6000 habitants, on était plutôt tranquille, et maintenant les cambriolages et les braquages se multiplient. Donc c'est vrai qu'on est... Bon, on le commente souvent ici, mais il n'y a pas que les grandes métropoles, les villes importantes qui sont cambriolées, qui subissent des actes de violence. Mais là, ce qui est encore plus tragique, j'allais dire, c'est que vous avez le cambriolage d'un commerce, mais vous avez aussi maintenant le côté physique, c'est-à-dire que les agresseurs sont pris physiquement à ce gérant de supérette. Alors, je remarque.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une arme à feu, on peut se dire qu'ils se laissent faire, ils donnent la caisse, on n'a pas besoin de frapper derrière. Mais là, ils le font.
C'est que on commente souvent les chiffres des cambriolages d'appartements, mais en fait, il y a une explosion en France, et ça, vous le trouvez dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, des cambriolages de locaux industriels, de commerce. Ça se voit nettement. Et notamment dans les plus petites villes. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute celles, le maire le disait, je vais installer de nouveau des caméras de vidéosurveillance, parce que c'est sans doute les endroits les moins sécurisés. Et tout ça pour 1000 euros. Vous risquez de blesser, de tuer quelqu'un pour 1000 euros. Alors c'est une somme, mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien que plus rien n'arrête ce type de cambrioleur. Et puis j'ajoute, sans vouloir rajouter justement trop d'angoisse, c'est qu'on va avoir des Jeux Olympiques. Vous savez, les forces de l'ordre vont être massivement concentrées sur Paris, et c'est bien normal. On va même demander l'aide de militaires étrangers. Vous avez vu que la Pologne a répondu favorablement. Mais ça veut dire aussi, même si les gendarmes...
Est-ce qu'on va délaisser les zones rurales ?
Les gendarmes assurent qu'évidemment, elles ne seront pas délaissées, mais enfin, je veux dire, c'est mathématique.
Ils ne peuvent pas être partout.
Ouais. Eh bien oui, bien
sûr. Guillaume Bigot.
C'est pas parce qu'ils ne... Il est hors de question de cautionner les vols, les prédations, etc. Et il n'y a rien de linéaire ou de mécanique chez l'être humain. Ce n'est pas parce que votre situation économique se dégrade que vous allez automatiquement voler, cambrioler, vous servir. En aucun cas, il n'y a rien de mécanique. Et évidemment, c'est pas parce que les gens sont dans une situation difficile qu'ils sont légitimes. Mais enfin, il y a des règles sociologiques. Et on sait que quand une situation économique se dégrade, ça aboutit à l'augmentation de ce genre de vol. Là, ce qui est plus notable, ce qui est vraiment caractéristique, et c'est dit dans le reportage, c'est la violence avec laquelle ça se produit, qui est une violence gratuite à partir du moment où ils ont leur larcin et leur butin. Pourquoi ajoutent-ils, en fait, de la violence ? Parce qu'il y a une dimension de haine de la France, de la société, etc., qui s'exprime là. C'est très, très curieux. Il y a des sociétés qui sont beaucoup plus criminelles que la France. Je citais souvent l'exemple du Brésil. Mais en Brésil, si vous donnez votre argent, votre montre, etc., on va vous tabasser. Ici, si vous donnez, on peut quand même vous tabasser. C'est ça qui est absolument invraisemblable. Et là, on a quelque chose sous les yeux qu'on ne veut pas voir.
C'est à la une de l'actualité également. Un mineur de 17 ans présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. Il avait été interpellé ce jeudi à Malakoff, en région parisienne, suspecté d'avoir envoyé des menaces à des collèges et des lycées via les espaces numériques de travail des élèves. Au total, 150 établissements ont été ciblés dans 20 académies différentes. Des menaces qui ont provoqué la psychose un petit peu partout dans le pays.
Oui, à tout cela vient s'ajouter le plan Vigipirate rehaussé depuis lundi dernier. Il est désormais à son niveau maximal. Les établissements déjà beaucoup plus vigilants depuis l'attentat d'Arras ont encore renforcé leur sécurité. C'est ce qu'a pu constater notre équipe à Nantes et au Mans. Le reportage de Mickaël Chailloux, regardez.
7h45, lycée Talensac de Nantes. Le contrôle aléatoire des sacs des 1200 élèves s'effectue chaque matin depuis l'attentat d'Arras. Seule nouveauté depuis une semaine, des accès ont été condamnés. Toute personne qui entre dans l'établissement passe devant un membre du personnel. Autre élément, le contrôle des espaces numériques de travail suite à l'envoi de mails menaçants.
Nous avons rappelé à chacun les règles en termes de cybersécurité, puisque ça aussi c'est une alerte que nous ne prenons pas à la légère.
Dans ce lycée public du Mans, même chose, on n'a jamais arrêté le contrôle aléatoire des sacs. Mais ce qui change, ce sont ces grilles installées depuis un mois sur l'esplanade du lycée.
Avant, on avait pignon sur rue, les élèves arrivaient directement dans le hall de l'établissement par la porte d'entrée. Et là, on a quand même maintenant un sas, je dirais, de protection. Pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrusion directe.
Avec le passage en Vigipirate urgence attentat annoncé par Gabriel Attal, les petits panneaux ont refait leur apparition dans le lycée. Faut-il en faire plus ? Les responsables d'établissement s'interrogent.
On est aussi des êtres humains et on a tous nos missions. Donc on fait au mieux, mais on n'est pas non plus ni des gendarmes ni des policiers.
En faire plus peut quelquefois avoir entraîné chez nos jeunes d'autant plus un sentiment anxiogène.
Ces responsables d'établissement, d'abord éducateurs, se questionnent sur l'impact à terme de ce contexte sécuritaire sur cette génération de jeunes lycéens.
Et tout de suite, le rappel de l'actualité, 8h14 sur CNews.
Un adolescent de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il est soupçonné d'avoir participé à l'envoi de menaces contre des établissements scolaires. Le mineur est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Ce nouveau record de détenus dans les prisons françaises, plus de 70 000 personnes étaient incarcérées au mois de février. C'est 6,1% de plus par rapport à 2023. La densité carcérale globale s'établit désormais à 124,6%. Et puis la star planétaire Beyoncé a sorti son nouvel album Cowboy Carter. Cet album aux riches influences country est une forme de clin d'œil aux racines texanes de la star. Spotify a annoncé sur X que Cowboy Carter était déjà l'album le plus écouté en une journée pour l'année 2024.
On vient de parler de la bunkérisation des établissements scolaires. On va parler maintenant de la colère au sein de l'éducation nationale. Les personnels de direction font face à un défi quotidien, celui de repousser les assauts contre la laïcité d'où qu'ils viennent. Frérisme, islamisme, extrémisme religieux, contestation de toutes sortes. Notre rôle est celui d'une digue résistant aux attaques fortes et déstabilisatrices. Voilà ce qu'explique le syndicat, le SNPDEN, syndicat des personnels de direction.
Oui, le syndicat a donné hier sa première conférence de presse depuis le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il a quitté précipitamment ses fonctions en raison des menaces qui pesaient sur lui. Il ne s'agit donc pas d'un simple départ pour convenance personnelle, comme évoqué par le rectorat. Maxime Leguet et Laurent Sélarié.
C'était une prise de parole attendue. Devant une foule de journalistes, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale a souhaité donner des nouvelles sur l'état de santé du proviseur du lycée Maurice Ravel.
Il est entouré, ses adjoints continuent de garder le contact avec lui. C'est sûr que c'est quelque chose qui est grand de toute façon. Hein, donc il faut quelques temps pour qu'il y ait une résilience. Imaginez ce qui se passe si vous êtes menacé de mort. Ben, voilà, ça vous donne une petite idée de la situation dans laquelle il est.
Si le syndicat salue la réaction et le soutien apporté par le gouvernement aux proviseurs et à la communauté éducative, il déplore toutefois une maladresse de communication du rectorat qui, dans un premier courrier, évoquait un simple départ à la retraite anticipée.
ce courrier qui fait effectivement apparaître la notion de convenance personnelle. C'est dommage, je pense que c'est une erreur de communication. Pourquoi ne pas appeler un chat? Le collègue est parti pour des questions de sécurité. Il fallait l'écrire comme ça, tout simplement.
De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé la création d'une force mobile scolaire nationale qui pourra être envoyée dans les établissements en cas de problème de sécurité.
Alors justement, maladresse du rectorat ou frilosité ou lâcheté peut-être du rectorat?
Oh bah les deux, c'est pas incompatible. Le premier niveau, c'est déjà qu'il y a une menace. Hein. C'est parti exactement comme l'affaire Samuel Paty, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire mensonge de l'élève, pression, menace de mort, et ensuite, bon, on exfiltre, hein, c'est le padvaguisme, l'aplaventrisme, et donc là, déjà, l'institution scolaire se couche. On avait pu espérer quelque chose avec la baïa, un petit retournement, mais ça n'a pas duré. C'était vraiment une vaguelette, le padvaguisme est quand même beaucoup plus important. Et deuxième chose, en plus de l'exfiltrer, on habille son exfiltration de manière scandaleuse.
Alors, ça a été très vite rattrapé par le gouvernement, par Gabriel Attal qui a annoncé que l'État allait soutenir la plainte. Mais
il y avait donc voilà, quelque chose à rattraper.
Bien sûr, bien sûr. Oui.
Monsieur Attal a sorti les rames, on a bien
évidemment
compris, et porté plainte contre l'élève. Et tout ça n'était pas envisagé dans un premier temps. Donc quand on entend Madame Belloubet, qui est aux affaires, qui est responsable de ses premières décisions, nous expliquer qu'il va y avoir une force mobile scolaire, mais ils vont venir quoi? Enfin. Je pense pas que ce soit les commandos marines, hein, qui débarquent. Hein. Je pense que ça va plutôt être des gens qui vont expliquer les vivre ensemble, les bisounours, etc., en trottinette électrique. Oh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce qui était déjà le cas encore dans l'affaire Paty. Il y avait des gens spécialistes de la laïcité qui ont été dépêchés sur place pour expliquer à M. Paty, oh, faut pas faire trop de vagues.
Éric Revel, un mot rapide.
Plusieurs choses. D'abord, bon, c'est pas la première fois qu'un rectorat n'est pas vraiment en appui d'un professeur ou d'un chef d'établissement. On l'a déjà vu par le passé. Je pense que c'est ça qui manque le plus.
Il y a une déconnexion par rapport à l'actualité et l'ambiance globale de ce qu'on attend aujourd'hui comme un soutien du rectorat. On attend un soutien sans oui. faille du rectorat. Ça fait longtemps que c'est pointé du doigt. C'est quand même étonnant que cette communication ait été possible. Voilà,
bah, vous vous souvenez pas de... Je crois que c'était le rectorat des Yvelines.
Oui, bien sûr, bon, face au...
Donc c'est pas la première fois, mais en fait, c'est ce qu'attendent les profs et les enseignants et sans doute le chef d'établissement. C'est-à-dire de se sentir épaulé, j'allais dire, quoi qu'il arrive, sur ces sujets de laïcité, au départ d'une affaire. Or, il faut attendre les développements, voir si ça devient un sujet médiatique pour que, parfois, les rectorats soient en appui. Puis, pardon, Madame Nicole Belloubet, qui crée donc cette agence tout risque pour
Force
les plus anciens,
scolaire.
de 20 personnes pour l'ensemble du territoire. D'abord, ça existe déjà, notamment... dans la région Île-de-France, mais enfin, que vont faire 20 personnes mobiles? Alors elle dit, ils se rendront sur place en 48 heures. Donc c'est pas de la police, évidemment, parce que les enseignants sont très réticents à faire de la répression dans l'enceinte des lycées et des collèges. C'est pas de la police, mais alors c'est quoi? Comme le dit Guillaume Bigot, c'est des gens qui vont dire expliquer qu'il faut pas le faire et qu'il faut retirer.
Gentil.
Non, mais vous voyez bien qu'on est à
c'est
la,
pas bien,
on
est, c'est on pas est, gentil.
On est à la limite du système. Et puis. Je veux dire, Madame Belloubet, elle est quasiment en désaccord depuis qu'elle a été nommée sur tous les sujets. L'Obaya en verra sa déclaration finale, mais vous vous souvenez des groupes de niveau? C'était le bébé chéri de Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation, Premier ministre. Et puis on a compris que Madame Belloubet en voulait pas. Donc en fait, tout ça court comme une sorte de canard sans tête. Et les profs et les enseignants. Et les chefs d'établissement vivent cette violence idéologique au quotidien.
Ce qui court comme un canard sans tête, c'est aussi nos dépenses publiques, manifestement. On va revenir sur le dérapage budgétaire de la France, pointé du doigt comme l'un des plus mauvais élèves de la zone euro, avec un déficit qui se creuse encore, 5,5% du PIB en 2023. Le gouverneur de la Banque de France, lui-même, qui appelle le gouvernement à s'occuper sérieusement des dépenses publiques.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, appelle à une prise de conscience collective, mais le gouvernement promet de ne pas toucher aux impôts, une promesse difficile à croire pour les Français. Les explications d'Adrien Fontenot et Kylian Salé.
Augmenter les impôts, 85% des Français y sont opposés. Et Gabriel Attal l'a promis, il n'y aura pas de hausse, mais le Premier ministre n'a pas convaincu.
Chaque fois ils disent qu'ils ne vont pas augmenter, mais ils vont chercher un truc pour augmenter.
Ça c'est des paroles, mais après il faut voir l'action.
C'est pur mensonge à mon avis, et comme d'habitude quoi.
Pour travailler à la réduction de la dette et du déficit public, les Français proposent d'autres alternatives. 54% sont favorables à une baisse du nombre de fonctionnaires, 52% à une réduction des aides sociales.
Les Français ont tout compris. Ils savent très bien que le problème de la France, c'est pas qu'on ne paye pas ses impôts, c'est qu'on dépense trop. Donc si on veut baisser la dépense, c'est pas ça qu'il faut faire. c'est réduire le nombre d'organisations publiques, d'administrations, de strates, de collectivités locales. C'est finalement s'attaquer à ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire réorganiser l'ensemble de nos administrations publiques pour qu'elles soient moins coûteuses en coût de production des services publics.
63% des Français ne font pas confiance à Gabriel Attal pour réduire la dette et le déficit public. Un chiffre presque identique pour son ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. 3 Français sur 4 n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour faire baisser la dette publique. L'objectif du gouvernement est fixé à moins de 3% des déficits publics en 2027.
Les Français sont très sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Éric Revel, est-ce qu'il faut, comme le dit Agnès Verdier-Molinier, s'attaquer aux millefeuilles administratifs français, aux coûts de production des services publics, dit-elle?
C'est une évidence. C'est une évidence. Pour l'instant, si vous voulez, on en est à tirer des signaux d'alarme. Bon, Bruno Le Maire, il est assez gentil, si vous voulez, mais enfin oui, ça fait 7 ans qu'il est ministre des Finances. Je vais vous donner 2-3 chiffres, hein, sans vous abreuver, pour vous qu'on vous rendiez compte de l'état assez catastrophique dans lesquelles sont les finances publiques. D'abord, on fait moins bien en termes de déficit que le Portugal, que l'Italie, que l'Espagne. On est vraiment en queue de peloton de la zone euro, hein. On a 154 milliards d'euros de déficit budgétaire d'annoncé. Et ce qui s'est jamais vu, au-delà des chiffres, c'est qu'il y a une prévision qui soit à ce point-là erronée. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a 18 à 20 milliards d'euros de déficit supplémentaire qui n'était pas prévu. Donc ça, c'est du jamais vu. 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, le début du quinquennat. Si vous enlevez la crise Covid, le plan de relance et l'aide à l'Ukraine, allez, vous enlevez 250 milliards. Le reste, c'est 800 milliards à peu près de déficit de dettes de plus. Pour quel résultat? Des hôpitaux qui sont en berne, une école qui est, ben, on en parle tous les jours, des services publics sociaux qui sont à la ramasse. Donc, je pense que les Français ont du bon sens. Ils ont raison de ne pas faire confiance aux gens qui les ont mis dans cette situation-là.
Merci Éric Revel. On marque une courte pause, on arrive dans quelques instants. On va évoquer cette situation dans le 18e arrondissement de Paris où des habitants ont été mis devant le fait accompli. Ils ont appris il y a à peine quelques jours qu'au début du mois d'avril, dans quelques jours, une salle de shoot allait ouvrir en bas de chez eux, au pied de leur immeuble, juste à côté d'une école pour enfants. Des familles qui sont désœuvrées face à... Ah voilà, ce que leur impose la mairie de Paris aujourd'hui, qui sont très très en colère. Vous verrez même certains parents en larmes. Ce sera le reportage dès le début de notre journal de 8h30. A tout de suite.
Une chance alors.
L'excellence du plateau de la matinale de CNews avec des bavards autour de cette table pendant la pause, mais ils sont là pour vous apporter leur éclairage sur l'actualité. C'est bien sûr Éric Revel et Guillaume Bigot. Sans parler bien sûr de l'incontournable Marine Sabourin, sans qui je ne serais quasiment rien ici dans cette émission.
Personne.
Merci d'être là. Bien sûr, bien sûr. C'est elle qui apporte les informations. Voici tout de suite le journal de 8h30. On va commencer avec ce reportage effarant. Des familles du 18e arrondissement de Paris prévenues de l'ouverture d'une salle de shoot juste en bas de chez eux, seulement quelques jours avant sa mise en service. Une salle qui est aussi tout près d'une école. Ça paraît impensable d'imposer cela aux riverains sans aucune concertation. C'est pourtant ce qu'a fait la mairie de Paris. Ils sont en colère. Vous entendrez leur désarroi dès le début de ce journal. Ce samedi qui marque également les 10 ans d'Anne Hidalgo à la tête de la capitale. Qu'en retiennent les Parisiens? Nous sommes allés leur poser la question et je poserai bien sûr la question à mes invités sur ce plateau. Et puis le dernier concert de Michel Sardou, c'était hier soir à Brest. Le chanteur prend aujourd'hui sa retraite, officiellement parce qu'avec lui on ne sait jamais. Le clap de fin d'une carrière de 60 ans, un concert fort en émotion pour les fans de Michel Sardou, vous verrez le reportage. Et puis surtout à 8h30, on sera avec Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de Mélodie TV. Ce sera à la fin de ce journal. Encore et toujours le fléau du crack à Paris. Ces décisions prises par la mairie, lourdes de conséquences pour lesquelles les habitants sont mis devant le fait accompli, c'est quelque chose qui nous a interpellés sur CNews. Dans le 18e arrondissement, des familles très en colère cette semaine, elles ont appris qu'une salle de shoot allait ouvrir près de chez eux, à quelques mètres seulement d'une école et juste en dessous d'habitation.
Ses parents n'ont jamais été concertés pour le projet. Des dizaines de riverains se sont mobilisés cette semaine pour s'y opposer. Vous allez le voir, l'émotion de certains parents est très forte. Olivier Gangloff et Adrien Spiteri se sont rendus sur place. Regardez.
Crackland Welcome ou encore Protéger nos enfants. Ces banderoles, réalisées par les habitants du quartier de cet immeuble de la rue Doudoville à Paris, flottent au-dessus de ce local. Derrière cette grille, un centre d'accueil pour toxicomanes ouvrira prochainement ses portes. Certains riverains ont décidé de se mobiliser pour s'opposer au projet.
On
considère que c'est quasiment une prise d'otage. Ma fille, elle rentre tous les soirs à l'heure où ils vont fermer la grille, 18h, et que j'ai pas envie que ma fille, elle rentre devant des toxicomanes potentiellement en manque.
Il reproche notamment à la mairie et à l'association Aurore, à l'origine de l'ouverture de ce centre, le manque de transparence et de dialogue.
Tout nous inquiète, la façon dont on a été informé à 10 jours de l'ouverture, alors même que les travaux duraient depuis un an et demi, sans aucune concertation préalable.
À seulement quelques mètres de là, se trouve une école élémentaire, un collège et une crèche. Autre problème, des vitres de ce local donnent sur la cour de l'immeuble. Gaëlle vit ici avec ses enfants. En pleine interview, elle ne peut retenir ses larmes.
Est-ce qu'ils ont visité ce lieu ? Ils ne l'ont pas visité. Regardez-moi, c'est pas sécurisé pour des gens avec des enfants. Je crains que le soir, quand je rentre, je suis désolée, ça me donne envie de pleurer, de ne pas pouvoir rentrer chez moi sans avoir peur.
Présent ce jour-là, l'adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris, en difficulté face à certains habitants, a refusé de s'exprimer à notre micro.
Et vous entendez juste à la fin le courage de cet adjoint qui dit « je ne parle pas à CNews ». C'est bien commode.
Oui, ça montre, disons, son attachement au pluralisme. Je pense que c'est ça le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par souci de pluralisme, il faut qu'il n'y ait qu'un seul son de cloche. C'est ça qui est important.
En l'occurrence, on était le seul média présent à cette manifestation, semble-t-il, selon les éléments de tournage que j'observe. Éric Revel, on entend cette femme pleurer parce qu'elle apprend, 10 jours avant l'ouverture de la salle, que la salle ouvre en pied de son immeuble. C'est une mère de famille.
Oui, alors, j'aurais aimé aussi entendre un spécialiste qui nous explique en quoi une salle de shoot, par exemple, ça peut... fluidifier, contrôler le trafic de drogue, permettre à ceux qui en ont besoin d'avoir des produits. Bon. Mais surtout, on peut réagir en tant qu'individu, en tant que père de famille ou en tant que mère de famille. Quand un truc comme ça vous arrive, je peux vous dire que vous êtes forcément extrêmement touché. Vous êtes extrêmement déstabilisé. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce sont vos propres enfants. Alors je ne sais pas si l'adjoint au maire du 18e qui a refusé de s'exprimer au micro de CNews à ses propres enfants-là. Mais si c'était le cas, je peux vous dire qu'il aurait forcément une autre attitude. Et alors, ce qui est incroyable, quand même, pardonnez-moi, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est que quand on entend ces riverains, ils n'ont pas été consultés. On vient de leur dire 10 jours avant que cette salle de shoot, même s'il y a des travaux depuis un an et demi, va ouvrir. Mais la gauche, c'est la reine idéologique de la participation... démocratique. Quand on prend une décision, la gauche nous explique, le Parti socialiste, Madame Hidalgo, qu'au contraire, on débat, on explique. Là, pas du tout. Là, pas du tout. Sur un sujet comme celui-ci, aussi important pour le quartier, on impose. Donc, la gauche...
Est-ce que c'est pas plutôt l'illustration d'une méthode qui est celle de la mairie de Paris? C'est de faire un peu les choses à la hussarde aussi, quelque part.
Ah, alors, c'est pas simple d'installer une salle de shoot, je suis d'accord. Est-ce que c'est la marque de fabrication de Madame Hidalgo? Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec une salle de shoot, mais il y a des endroits dans Paris où quasiment du jour au lendemain, on apprend qu'un gymnase va être réquisitionné, par exemple, là où des enfants font du sport, parce qu'on va y mettre pendant 15 jours, un mois, deux mois, des migrants. Et ça, les gens l'apprennent du jour au lendemain aussi. C'est une décision de la mairie de Paris avec la préfecture de Paris. Donc, si vous voulez, c'est une drôle de façon quand même d'illustrer... cette démocratie participative dont on nous rabat les oreilles quand on écoute les politiques de gauche, alors que visiblement, les décisions elles tombent verticalement avec un autoritarisme de folie.
Guillaume Bigot.
Il faut dire que dans le problème grave que pose le trafic de stupéfiants, il y a un angle mort. C'est à la fois l'angle mort de la mairie de Paris, là on le voit, l'angle mort de l'État aussi, c'est celui de la consommation. Parce que c'est pas possible d'un côté de dire oh, on va mettre le paquet sur la répression du trafic de stupéfiants et des trafiquants et des réseaux et on va shooter, je ne sais plus quelles sont les expressions, enfin place nette, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et d'un autre côté, de ne rien faire contre la consommation. Je rappelle que la consommation, c'est réprimé par la loi. C'est des peines normalement d'amende et de prison et ça a été constamment allégé. Ensuite, évidemment, il y a un dilemme parce que il a été décrété que c'était pour des raisons d'ordre public aussi bien d'éviter des contaminations, d'éviter la propagation de maladies en prenant en charge des gens qui sont drogués et qui prennent des risques pour leur santé et donc font courir des risques à toute la société. Je peux l'entendre.
mais pas au détriment de la sécurité et de la sécurité des plus vulnérables, des enfants. Enfin, ça n'a juste aucun sens.
C'est dans ce contexte qu'Anne Hidalgo fête aujourd'hui ses 10 ans à la tête de la mairie de Paris, de la piétonnisation de la capitale à la saleté des rues, en passant par son voyage en Polynésie. Les 10 ans de mandat d'Anne Hidalgo ont été marqués par des polémiques.
Oui, alors quel bilan les Parisiens tirent-ils après une décennie à la tête de Paris? Charles Baget est allé poser la question. Vos réponses sont commentées par Juliette Sanat.
Anne Hidalgo, 10 ans à la tête de Paris, c'est déjà quelques 500 km de pistes cyclables aménagées dans la capitale.
Qu'est-ce que vous retenez de son action?
De son action, les pistes cyclables, très bien. Je suis cycliste et je trouve que c'est bien, c'est une mobilité agréable.
Les vélos? Voilà, quelque chose de positif.
En novembre dernier, elle reçoit le prix des visionnaires du développement urbain. Mais tous ces aménagements sont loin de faire l'unanimité. Certains dénoncent des travaux sans fin.
En plus, j'ai des travaux devant chez moi. Trottoir à gauche, trottoir à droite. En pleine pluie, on met les pieds dans le sable, carrément.
Pour circuler, c'est compliqué. Enfin, les trottinettes, les vélos, les piétons, les bus, ça devient vraiment un enfer.
Une élue qui divise... La maire de la capitale, on l'aime ou on ne l'aime pas.
Je retiens qu'elle suit la ligne de conduite de toutes les grandes capitales d'Europe et d'un peu partout. On gueule pareil dans toutes les grandes villes. Il faut aller avec son temps et elle va avec son temps.
Elle a promis des tas de choses et les résultats sont pas là.
Je pense qu'elle est un petit peu trop carriériste et pas assez tournée vers les gens.
Anne Hidalgo critiquée surtout pour les embouteillages et la propreté qui laisse à désirer. La maire de la capitale n'exclut rien en vue des municipales en 2026 pour un troisième mandat.
Alors messieurs, qu'est-ce que vous retenez d'Anne Hidalgo?
Le début du reportage me va bien, c'est-à-dire 500 km de pistes cyclables. Je trouve que même si c'est évidemment souvent le boxon, il y a des travaux, etc., c'est quand même quelque chose que vous mettez à son crédit. Parce que Paris était sans doute parmi les grandes capitales, l'une qui était les plus en retard en matière de mobilité douce, comme on dit, même si elle a bien fait d'interdire, via un référendum, les trottinettes qui rajoutaient au boxon général. Maintenant, ce que je retiens aussi, si vous voulez, c'est que la ville de Paris est sur une trajectoire de dette, puisqu'on parlait des finances publiques de la France tout à l'heure, la mairie de Paris est sur une trajectoire de dette de 10 milliards d'euros. Donc d'un point de vue de la gestion, je pense que si elle se succédait elle-même ou le successeur ou la successeuse, je ne sais plus comment il faut dire, il ne faut choquer personne, va avoir quand même du pain sur la planche. On est sur une trajectoire de 10 milliards d'euros de dette. Et puis je pense qu'il y a eu une fracture, me semble-t-il, psychologique dans le mandat d'Anne Hidalgo sur 10 ans, puisqu'on fête sa décennie. Il y a un avant et un après élection présidentielle. Je pense que le score... pitoyable qu'elle a réalisé au présidentiel, l'a un peu radicalisé. C'est-à-dire qu'elle a tutoyé le taux du livret A, si vous voulez, avec son score à la présidentielle. Et ça, je pense que ça a fait basculer la maire de Paris psychologiquement dans un autre environnement. Et elle s'est, me semble-t-il, radicalisée, encore plus idéologisée. Puis elle a des Verts qui sont derrière et qui lui mordent les mollets en permanence, dans sa majorité.
Guillaume Bigot, très rapidement.
Oui, c'est une ville pratiquement garantie sans classe moyenne et sans pauvres. Voilà, donc la gentrification de Paris par souci de conformisme intégral avec murs végétales, pistes cyclables, etc. est enfin réalisée. Je suis assez d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu avec mon camarade, c'est-à-dire que quand même elle l'a fait pour les pistes cyclables. Et quand même ça on peut pas lui retirer, mais c'est un confort pour les CSP+ qui habitent dans Paris et par ailleurs, c'est la catastrophe pour les banlieusards.
Ce chiffre record de détenus dans les prisons françaises, il n'a jamais été aussi élevé. 76 766 personnes étaient incarcérées au mois de février. C'est 6,1% de plus par rapport à la même période l'an dernier.
La densité carcérale globale s'établit désormais à 124,6%. La densité carcérale dans les maisons d'arrêt atteint quant à elle les 148,7%. Une surpopulation qui dégrade une nouvelle fois les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. Écoutez Franck Rassel, secrétaire régional FO pénitentiaire.
Ça rend le métier compliqué parce que vous gérez de l'humain au quotidien. Donc déjà, une personne enfermée 23 heures sur 24 dans les maisons d'arrêt, si la personne n'a pas d'activité, c'est déjà dur à gérer. Alors quand vous doublez ce nombre de personnes dans une cellule, nos temps d'échange et les moyens de la réinsertion sont très très limités. Donc forcément, ça crée de la violence. Et la violence, nous sommes en première ligne, donc du coup, nous, pour empêcher tout ça, mais nous sommes aussi les premiers à encaisser les coups s'il y a coup.
Peut-être un mot sur cette surpopulation carcérale aujourd'hui, Guillaume Bigot.
Oui, c'est pas sans effet parce que quand vous réduisez l'espace disponible de gens qui sont en plus enfermés, c'est une augmentation mécanique de la violence et très rapide. 1998, j'ai retrouvé cette statistique, il y avait 278 agressions par jour dans les prisons en 1998. Depuis les années 2020, il y en a environ 4000 par jour en moyenne. Donc c'est une explosion. Donc ça concerne évidemment les prisonniers qui sont victimes de la loi du plus fort, les personnels pénitentiaires dont on a de plus en plus de mal à les recruter. Donc voilà, on attend les 15 000 places de prison promises par le président de la République en 2017. En 2022, le programme de construction devait être lancé. Ce qui est assez étonnant, c'est que même lorsque la promesse non tenue de 2017 sera peut-être tenue en 2027, on sera déjà à 100% puisqu'on est déjà à 76 000 personnes incarcérées.
Allez, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
Le Conseil d'État confirme l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi. Il estime que l'imam tenait des propos incitant la discrimination des femmes et des juifs. Le Conseil d'État évoque aussi des actes de provocation à la violence contre des groupes de personnes dans un contexte international sous tension. Le violeur de Tinder condamné à 18 ans de réclusion criminelle, Salim Berada, est reconnu coupable d'avoir violé et agressé sexuellement 15 femmes rencontrées sur Internet. Des faits qui se sont déroulés entre 2014 et 2016 et qui concernent de très jeunes femmes. La Cour criminelle de Paris a retenu le caractère particulièrement organisé de ces crimes et délits. Et puis Benjamin Netanyahou veut poursuivre les discussions sur une trêve dans le territoire palestinien de Gaza. Il a donné son feu vert à de nouveaux pourparlers. Ces derniers mois, plusieurs sessions de négociations ont eu lieu via les médiateurs internationaux, mais sans résultat.
On va parler à présent, et je suis sûr que vous l'attendez avec impatience, messieurs, du monstre sacré de la chanson française qui a fait son tout dernier concert hier à Brest, absolument, Michel Sardou, son ultime concert à Brest, hier soir, dernière étape d'une tournée d'adieu de 63 dates, et donc, depuis ce matin, Michel Sardou qui est censé être officiellement à la retraite. On va en parler avec notre invité, Jean-Pierre Pasqualini. Bonjour, merci d'être avec nous, monsieur Pasqualini. Vous êtes directeur des programmes de Mélodie TV, vous êtes un fin connaisseur de la chanson française, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce départ à la retraite de Michel Sardou? On a toujours du mal à y croire, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup.
Oui, ben, vous savez, c'est une tradition hein, dans le musical. Hein. Maurice Chevalier, il y a bien longtemps, avait déjà plusieurs fois fait ses adieux. C'est assez récurrent. Et Johnny avait fait ses adieux aussi en 2009 et il est revenu. Donc ça ne sera pas le premier ni le dernier. D'ailleurs, il a, comme vous dites, déjà fait le coup en 2017, Michel Sardou. Mais en tout cas, c'était peut-être la der des der officiellement, du der des der. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup des chanteurs de cette trempe, de cette génération. Il nous reste, dans ceux qui chantent encore, évidemment Hugo Frey qui a fait l'Olympia, Pierre Perret, Enrico Macias, mais des grands monstres sacrés qui font encore 63 dates complètes à 77 ans, il n'y en a pas. C'est le seul.
C'est pour ça qu'il est probablement au panthéon de la chanson française. Qu'est-ce qu'il représente en 60 ans de carrière, Michel Sardou? Il incarne, j'ai envie de dire, une certaine France, celle des territoires, une France plus rurale qu'urbaine. Il est bien plus adulé en région qu'à Paris, par exemple.
Oui, ça c'était ce qu'on racontait dans les années 60, 70, qu'il y avait des chanteurs de province et des chanteurs parisiens un peu bobos. Ça a un peu évolué quand même aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'il chante les chansons de ceux que souvent on n'écoute pas. Il a d'ailleurs toujours été provocateur. C'est pour ça qu'il est aimé quand il chantait « La France, c'est pas un pays où il y a 50 millions d'abrutis ». Évidemment, les gens qui pensaient qu'on les prenait pour des cons, excusez l'expression, étaient tous derrière lui. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est eux qu'on retrouve dans les concerts. Ils n'ont pas oublié que ce mec a chanté leur vie, a chanté des choses qu'eux avaient sur le cœur. Il a osé. D'ailleurs, ça lui a valu pas mal de coups, même un attentat à la bombe hein, au Forest National à Bruxelles, parce que c'est un chanteur qui ne laisse pas indifférent. C'est pour ça que le public est toujours là.
Qu'est-ce que vous retenez juste en un mot, vous, de Michel Sardou? De sa carrière, de Michel Sardou. Il est toujours présent, il est toujours parmi nous et en bonne santé pour le moment. Donc, évidemment, je parle de sa carrière.
Oui, oui, sa carrière, elle a été énorme dans les années 70, 80, même 90. C'est vrai que là, pour lui, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il fait que des concerts best-of. Donc, on peut comprendre qu'il est peut-être qu'il en a un peu assez de chanter ses chansons du passé, parce que les derniers albums, il les chante même pas, il essaie même plus de les imposer, les radios ne veulent plus de lui, donc on peut comprendre qu'il soit fatigué, mais sachez que c'est la dernière fois, c'est sa femme qui l'a poussé à repartir, parce qu'elle en avait marre de le voir tourner en rond. Donc aujourd'hui,
elle ne le supportait plus à la maison.
Ben oui, aujourd'hui, il vous dira qu'il est crevé, ce qui est vrai, comme Eddie Mitchell, d'ailleurs, qui a dit « je ne ferai plus de tournée parce que les avions, la route, l'autoroute, les hôtels à 2h du matin, la salade gourmande dans la chambre d'hôtel, j'en veux plus ». Donc Sardou, aujourd'hui, il vous dira sûrement que c'est la der des der, mais dans quelques mois, quand il tournera en rond, il y a de fortes chances qu'il ait un nouveau projet, hein.
Jean-Pierre Pasqualini, merci. Ben, on espère peut-être qu'il ait un nouveau projet finalement et qu'il se ravise par rapport à cette retraite. D'ailleurs, apparemment, il n'a pas dit adieu hier soir. Donc, c'est peut-être le signe que tout n'est pas fini ou qu'il veut se laisser quand même une opportunité de revenir sur la scène. En tout cas, ce sera pour le plus grand plaisir de ses fans. Merci infiniment. Un mot, vous
avez... Oui, un mot, parce que Monsieur Pasqualini, il a quand même oublié un monstre sacré. Là, parmi les chanteurs qu'il a cités, c'est Serge Lama quand même. Il ne parle pas de Serge Lama. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui incarne cette France, cette année-là. Et je vous parle de Serge Lama parce que dans une discussion que j'avais eue avec lui, il m'avait expliqué qu'il n'était ni Jacques Brel, ni Michel Sardou, pour dire qu'il était, vous voyez, en termes de popularité un peu entre les deux. Et puis, Charles Aznavour aurait fêté ses 100 ans là, il était né en 1924, et Aznavour, c'est sans doute le champion olympique des adieux, des tournées d'adieux. Hein. Il en a fait énormément.
Hein. Je vais me faire gronder, on va finir sur les sports.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Marine de la Ligue 1, la victoire du LOSC face au RC Lens.
Oui, Lille s'est imposé 2-1 face à Lens. Les Lillois ont pu compter sur un grand Eden Zegrova, auteur d'un doublé, d'abord en tout début de match, puis un nouveau but à l'heure de jeu sur une frappe repoussée par Brissamba. À la 78e minute, Eli Wai réduit la marque pour les Lensois, mais le score du match ne bougera plus avec ce succès. Les Lillois remontent provisoirement à la 3e place du classement, Lens est en 6e position.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
C'est l'été.
Vous pouvez continuer à chanter pendant que je dis au revoir à tous nos téléspectateurs. Au revoir, passez une très bonne journée.
Chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été. C'est une formidable chanson de Michel Sardou.
Merci.
Elle risque sur son chapeau.
Et c'est la fin de cette émission.
Il est inarrêtable.
Il va continuer à chanter. Très bonne journée à tous sur CNews. Tout de suite, l'heure des pros avec Elliot Deval.